Salut à tous les amis et bienvenue dans ce deuxième numéro du podcast de l'œil carnivore. Ouais. Déjà, on a tenu plus d'un numéro déjà, hein, ouais, hein. Même si Matt n'est plus des nôtres. Voilà, donc on est déjà le 7 février 2013 et c'est parti pour l'enregistrement de ce deuxième numéro. Autour de la table, comme d'habitude, eh bien, on retrouve les habitués, hein, ceux qui ont créé l'œil carnivore. Damien, aka le poulpe vert, je l'aurais dit. J'aurais dit oui, parce que pseudo comme ouais. Ça, je peux pas passer à côté.
Bonsoir à tous.
Donc voilà, qui a géré, coordonné tout ça. Je ne suis que son humble serviteur.
Ouais. Ça n'a pas été évident. La semaine a été dure, mais bon, on va essayer de faire un bon podcast ce soir.
Ouais. Bah, on est là pour ça. On est là pour s'amuser. À côté de toi, Luc, qui nous avait parlé de manger avec Star Wars la semaine passée. Oui.
Et puis j'ai retrouvé mon père aussi.
Là. Ah oui, c'est vrai que pour l'anecdote, quand même, on l'a bien fait chier du début à la fin. Avec,
j'ai souffert.
Entre son pseudo et son premier sujet Star Wars. À sa gauche, un petit nouveau aussi, Darby.
Bonsoir. Bonsoir, salut.
Aussi un habitué de la radio.
Bien sûr.
Mais de la vraie radio, c'est qui passe sur la bande FM, hein, pas les crevards de podcasteurs que nous sommes.
Mais non.
Voilà. Toujours de l'œil carnivore aussi.
Bien sûr, l'œil carnivore avec des articles et tout, donc voilà.
Un nouveau chroniqueur donc autour de cette table, c'est pas plus mal. Et puis notre Sylph National, qui est toujours là.
Yo.
Qui squatte, il n'est pas parti.
Voilà. Il faisait chaud, ici, il y avait à manger, moi j'étais content.
Il nous avait fait des beaux sujets la semaine passée, notamment sur Django, que j'ai été voir depuis, qui est excellent, et que je vais retourner voir au cinéma, je pense. Il est vraiment, voilà. Je vous conseille d'aller écouter le petit sujet, ça vaut la peine. Johnny Blaze aussi, habitué de ceux qui écoutent le podcast du blog jeux vidéo ou encore eSport Talks quand on en fait.
Je suis partout.
On n'en fait plus beaucoup des podcasts. Donc voilà, Johnny Blaze qui vient du blog jeux vidéo et qui est spécialiste, rédacteur spécialisé du moins sur le web en jeux vidéo et en testing jeux vidéo. Donc on va parler un petit peu de tous les sujets ce soir. Voilà, allez, on démarre tout de suite avec un petit tour de l'actualité, de ce qu'on peut trouver en news finalement sur l'œil carnivore. Et on commence par Luc qui va nous parler d'un petit changement d'hébergeur pour le site.
Enfin, parce que bon, on a quand même vécu des moments pénibles de changement d'hébergeur une première fois en étant une première migration et c'était extrêmement lent et pénible pour tout le monde, surtout comme pour ceux qui le regardaient, comme pour ceux qui l'éditaient.
Oui, bah, y avait des fois où c'était même pas la peine d'essayer d'écrire un article.
J'aimerais ne pas faire de commentaires sur ce sujet. Je risque de m'énerver.
Oui, ça a valu pas mal d'énervement. Et donc maintenant, on est sur un nouvel hébergeur qui fait ça très bien et professionnellement. Donc,
balance des noms.
Bah, maintenant, on est sur Infomaniac.
Et avant,
on était chez les vilains OVH.
Pourri.
Pourtant, normalement, réputé comme un des meilleurs hébergeurs.
Je me bats toujours avec eux pour l'instant. J'ai des échanges de mails absolument merveilleux que je sens que je vais d'ailleurs poster sur le site pour
un petit article.
Oui, je pense qu'ils le méritent. Ces gens sont tellement compétents.
C'est quoi le problème ?
Le problème, c'est simplement qu'ils ne sont pas capables d'avoir leurs serveurs de base de données qui sont à la hauteur de ce qu'ils proposent comme service. C'est-à-dire que comme c'est du mutualisé, c'est un peu chacun tire la couverture de son côté. Et ils ne sont pas capables de fournir un service professionnel à ce niveau-là. Donc quand on a un site dynamique comme les 98% des sites d'aujourd'hui, une base de données qui suit, c'est important. Et quand on n'est pas capable de fournir ça, on ne la ramène pas trop. Donc maintenant, ça va, c'est fluide, c'est rapide.
Ah oui, c'est,
viendez
c'est,
les gens.
Viendez, parce viendez. Que là, ça y est, enfin, la page s'affiche tout de suite. Et on n'est pas obligé d'attendre pour lire nos superbes articles.
Mm-hmm. Et les podcasts, voilà. Ils sont hébergés où ? Ils sont hébergés sur le serveur ou pas ?
Ils sont hébergés sur le serveur, oui.
Ok, donc vous streamez aussi via ce serveur-là.
On stream comme des porcs.
Ouais, comme des cochons.
Absolument.
Parfait, super. Et donc, c'est quoi le nouvel hébergeur ? Je n'ai pas entendu.
Infomaniac,
mais je ne connais pas.
C'est une amie suisse.
Suisse. Bah, ils sont sympas, les Suisses.
Pourtant, ils sont réputés lents.
Oui, ils sont réputés comme précis. Et ça,
un hébergeur suisse, c'est vrai.
Ils font des bonnes
sa qualité suisse.
Bah, je suis né en Suisse, d'ailleurs, pour la petite info.
Ah oui, c'est vrai, Johnny Blaze, il est suisse.
Quelque part.
On dirait pas comme ça, il a un petit aspect créole pour ceux qui l'ont jamais vu. Mais...
Je suis né à Neuchâtel, donc dans le canton de Neuchâtel.
Dans le canton.
Ah, tu parles pas allemand, alors.
Non. Dommage.
Allez, ça c'était pour la première news, donc on change d'hébergeur pour l'œil carnivore. Et puis Sif vient nous parler aussi d'un nouvel MMORPG, je sais pas s'il est nouveau en tout cas, non, Black en fait, Desert.
En fait c'est un MMO qui devrait sortir au courant 2014 dans nos contrées, c'est un MMO coréen. Il y a pas mal de choses à en dire, je crois que l'article est assez exhaustif. Mais globalement, c'est un MMO comme on pourrait appeler Sandbox. Le principe, en fait, c'est que il a l'air d'être un peu différent de ce qu'on peut voir la plupart du temps via les MMO coréens. Et puis graphiquement, c'est somptueux. Mais surtout, il y a plein d'autres petites choses. Mais encore une fois, je vais pas commencer à décortiquer tout ça. Je vous invite à lire l'article.
Bah, juste pour savoir l'univers, le style.
C'est très
graphique.
Bizarre. En fait, ça ressemble. Comment est-ce que je pourrais dire ça, voilà, c'est un peu Renaissance.
Oui, c'est un espèce de médiéval fantastique teinté de Renaissance italienne, un petit peu, etc. C'est très très joli, ça.
Ah oui, non, le moteur graphique qu'ils ont là, c'est hallucinant. Je sais pas comment ils ont fait.
Et il y a des trucs vraiment intéressants, notamment de batailles et de choses dans ce genre-là, de chariots, de choses.
Hors de ça, c'est l'économie qui a l'air d'être intéressante dans le jeu, parce que visiblement, c'est une économie dynamique, un petit peu comme dans la réalité, avec. Comment dire ? C'est-à-dire que d'une région à l'autre, en fait, les matériaux n'ont pas les mêmes coûts. Donc, du coup, en fait, les joueurs sont amenés à faire des voyages pour vendre leurs matériaux dans d'autres régions, et ainsi de suite.
Et vraiment, et en même temps, ils peuvent se faire attaquer sur la route, etc.
Un peu à Live Online, quoi.
Un peu à Live Online. Mm-hmm.
Un peu à Live Online, ouais.
Moi, j'ai entendu une autre news concernant les MMORPG, c'est Terra, qui devient Terra Rising et devient free to play.
Je pense que c'est ce que ça mérite.
C'est vrai.
Vu la façon dont les maps sont finies, vu l'intérêt global des quêtes et des choses comme ça, à mon avis, ils auraient dû commencer par là.
Comme 90% des MMO.
Voilà, c'est un peu la tendance, ouais. C'est le seul modèle économique viable, quoi. Bon, super, ben Sylph, tu restes avec nous parce que tu vas nous parler d'un petit film d'animation, La Colline au Coquelicot, et je vais pas citer de qui c'est parce que c'est imprononçable.
Gorō Miyazaki. Alors voilà, La Colline au Coquelicot, il est sorti en 2011 au cinéma. Je crois qu'il est sorti dans la complète... tout le monde avait l'air de s'en foutre quand c'est sorti en DVD. Moi, je voulais absolument le voir parce que c'est le deuxième film de Gorō Miyazaki, le monsieur qui avait fait... le fils...
Qui vit dans l'ombre.
Le fils de Hayao Miyazaki, qui donc est le sublime dessinateur de dessinateur, chef de projet, enfin un peu tout en fait, le monsieur à tout faire des studios Ghibli, et peut-être l'un des réalisateurs de films d'animation les plus extraordinaires de l'histoire.
Pour ceux qui ne savent pas, c'est celui qui a réalisé Chihiro, Princesse Mononoke, etc. Bon, il y en a d'autres, mais voilà, c'est les plus emblématiques.
Mon voisin Totoro, pour ceux qui connaissent, et toutes
et
ces choses-là.
Nausicaa et autres.
Voilà. Et donc, le monsieur Gorō Miyazaki, c'est un petit peu, comme il le disait précédemment, c'est un petit peu le film d'animation qui le confirme comme réalisateur, ce qu'il ne comptait pas faire à la base. Je vais vite fait passer sur le scénario. C'est une histoire un peu romantique d'une jeune fille qui rencontre un garçon dans son école et qui décide de sauvegarder en fait un endroit qui s'appelle le quartier latin, qui est en fait une espèce d'édifice en fait dans lequel les étudiants viennent squatter. Il y a différentes activités, etc.
Comme à Paris.
Sans doute. Voilà. Le gros intérêt du film, c'est que ça se passe en fait dans une période semi-révolutionnaire, un petit peu avant les Jeux Olympiques de Tokyo en 1963, il me semble. Et voilà. Bon, alors le film, globalement, c'est là que je vais devenir un peu méchant. Moi, j'aime pas Gorō Miyazaki. Je trouve que, j'avais vu Terre et Mer, qui est son précédent, et je trouve que je ne retrouve pas ce que j'aime chez son père, et je ne retrouve pas spécialement ce que j'aime dans les films du studio Ghibli. Et là, j'étais agréablement surpris sur certains aspects, mais je trouve qu'il y a toujours un peu les mêmes défauts. Bon, après, je ne vais pas sortir des trucs horribles comme les cahiers du cinéma qui lui proposent de changer de métier. Mais bon,
carrément.
Oui, mais le cahier du cinéma, je pense qu'on a tous.
Il part d'eux, là.
Je pense. Ouais. Mais sinon. Bon, pour tous les amateurs d'animation, au niveau des décors, c'est fantastique. L'animation est impeccable. Enfin, voilà.
Ouais, c'est le travail du studio Ghibli qu'on retrouve Arrietty, Ponyo, etc.
Voilà. Indéniablement, ce qui se fait de mieux, je pense, parmi ce qui se fait de mieux en Japanimation. Alors.
Vous savez qu'il y a un jeu qui vient de sortir. Hein,
oui, justement. Studio, c'est pour ça que. C'est Ni no Kuni.
Ouais, c'est ça.
De Level 5, voilà. Et c'est pour ça aussi que je me disais que c'était bien de faire le parallèle avec La Colline au Coquelicot, qui est un peu passé inaperçu, ce qui est un peu dommage. C'est vrai qu'il y a eu un engouement il y a quelques années avec la sortie de Princesse Mononoke et du Voyage de Chihiro, qui est un peu retombé et tout ça. D'autant plus que je voulais faire la petite anecdote quand même sur le côté, parce que des renseignements que j'ai pris, en fait, le distributeur belge, contrairement en France, dans lequel c'est Disney qui les distribue, en Belgique, ce n'est pas Disney qui les distribue, et donc c'est totalement introuvable. De trouver des Miyazaki récents en fait dans les commerces habituels. Donc ça, pour les gens qui nous écoutent et qui ont tout à coup envie de voir ce film, ça va être un peu compliqué. Je vous conseille d'aller chez des marchands spécialisés parce que
il y a son oncle japonais qui peut lui envoyer une cassette vidéo qui peut regarder, voilà.
Tout à fait. Sur le net,
sinon Amazon. Hors de ça,
je vais juste faire un petit résumé. Le film est intéressant au niveau de son contexte. Il est intéressant parce qu'il parle d'une époque qu'on connaît assez peu. Il y a vraiment des belles choses, c'est émouvant, tout ce qu'on veut. Le rythme est un peu bof. La musique, c'est une espèce de musique jazzy, est fort omniprésente, peut-être un peu trop.
C'est qui a fait la bande son?
Il y a plein de gens. Alors, je n'ai pas tous en tête. Je sais qu'il y a un chanteur des années 60 qui est super connu et des choses comme ça. Bon, attention, c'est japonais. Il faut s'attendre à des choses assez caustiques. Mais globalement, c'est un film tout à fait agréable à regarder, qui est paisible, dans lequel il y a des bonnes choses et qui fait vraiment penser un peu au cinéma de Ozu. Maintenant, comme certains ont pu le dire sur le site, moi j'ai fait un article dernièrement sur le Colorful, qui est un film un peu dans la même optique et que j'ai trouvé largement meilleur. Mais bon, La Colline et Coquelicot reste un film vraiment intéressant, un peu dans la même veine que les premiers studios Ghibli qui sont pas sortis par ici, comme Souvenir goutte à goutte, un autre film dont je ne me rappelle plus, qui sont plus des films intimistes en fait. Donc voilà, on est loin de ce que fait son père, mais je trouve que globalement ça reste mieux en tout cas que Terre et Mer, même si je sais que Damien me disait tout à l'heure qu'il avait trouvé ça quand même chouette.
Bah, Terre et Mer, c'est une histoire, c'est une énième adaptation en fait de Terre et Mer. Alors je ne sais plus tout d'un coup, je ne sais plus quel est l'auteur à la base de ça, mais il y a eu une série de téléfilms, c'est un bouquin à la base, etc. Donc il y a eu pas mal d'adaptations de Terre et Mer. Le problème, en fait, je trouve, de Terre et Mer de Goro Miyazaki, c'est qu'on a l'impression que c'est un OAV, qu'en fait, ça ne tient pas tout seul, comme s'il y avait une histoire avant et une histoire après, et qu'on avait fait une sorte de téléfilm bonus pour ceux qui ont aimé la série. Toute seule, je trouve qu'il manque plein de choses et on ne comprend pas tout ce qui se passe, donc... Finalement, on est là devant quelque chose qui est joli, certes, parce qu'il y a des très très belles images. Bon, c'est Ghibli, donc de ce côté-là, ils connaissent leur métier. Mais c'est vrai qu'au niveau du scénario, etc., si on ne connaît pas le contexte, il reste effectivement pas grand-chose et c'est dommage.
Et c'est d'ailleurs ça qui est un petit peu dommage dans La Colline et Coquelicot, c'est que le contexte de l'époque au Japon est vraiment intéressant parce que comme ça précède un petit peu mai 68, un petit peu partout à travers le monde, en fait, il y a les pays qui se réveillent de l'après-guerre et dans lequel la population jeune se manifeste un petit peu en disant mais nous aussi on a des droits et ainsi de suite. Et ça illustre un petit peu ça. Tout le sujet de ce film, c'est un petit peu ça. C'est le lendemain de la guerre de Corée pour les Japonais, donc c'est vraiment une période qui est assez dure pour les jeunes et tout ça, qui ont souvent perdu de la famille, notamment après Hiroshima ou après justement la guerre de Corée, etc. C'est le début des manifestations contre la guerre du Vietnam aussi. À peu près, c'est une époque qui est assez tendue en fait et qu'on connaît finalement relativement peu. Donc voilà, pour ça, le film est intéressant. Plastiquement, il est intéressant. Maintenant, il a quelques petits défauts. Moi, je trouve que c'est un film relativement moyen, on va dire. Mais ça reste quand même un bon moment à passer, quoi. Faut pas déconner non plus.
Voilà, La Colline au Coquelicot, je le dirais une fois, pas deux, de Goro Miyazaki, fils du peut-être plus célèbre, je sais pas s'il est plus célèbre ou pas.
Hayao Miyazaki.
Oui. Quand on dit Miyazaki, tout amateur de dessins animés japonais ou de manga connaît Miyazaki, c'est pas possible.
Pour la petite anecdote, en fait, il a exposé avec Moebius il y a quelques années, en fait, à Paris, dans une très grosse exposition qui avait fait beaucoup parler d'elle. Donc il y avait plein de croquis de lui, etc. C'était juste, ce type est assez extraordinaire. Mais je ferai peut-être une parenthèse dans une émission ultérieure sur lui.
C'est là où c'est assez intéressant d'ailleurs, parce que à propos de Moebius, Miyazaki se sert de référent, comme référent artistique et d'inspiration, c'est Moebius. Vraiment, il a vu Moebius et de là est sorti plein de choses, et notamment Nausicaa. On voit bien l'influence de Moebius dans le dessin de Nausicaa.
Mais en fait, bizarrement, moi j'avais cru comprendre en fait qu'ils ne se connaissaient pas.
Si.
Ah, peut-être qu'ils ne s'étaient pas rencontrés.
Non, ils ne s'étaient pas rencontrés, mais Miyazaki connaissait le travail de Moebius, en fait.
Ça ne m'étonne pas.
Miyazaki, donc, père et fils à découvrir sur le web, parce qu'apparemment, ce n'est pas trouvable dans toutes les...
C'est trouvable, mais c'est compliqué.
C'est trouvable, mais
c'est compliqué. Il faut aller dans des magasins spécialisés.
Ou peut-être sur Amazon.
Sur Amazon, par contre, c'est déjà plus simple. Ils sont disponibles, etc. Et ne vous fiez pas à la FNAC, ils disent qu'ils les ont, mais ils ne les ont pas.
Voilà un sujet qui vaut la peine d'être regardé et d'être creusé. Un grand merci, Sylph. On va passer tout de suite à Luc qui va nous parler de jeux vidéo avec Hotline Miami. Alors Luc, dis-nous tout, parce que Hotline Miami, c'est quand même un sacré morceau. Et en plus, tu vas particulièrement t'intéresser à sa bande-annonce.
Oui, parce que bon, on en a déjà un peu parlé vu que ça fait un moment qu'il est déjà sorti. Mais on retrouve encore quelques articles qui parlent plus précisément de sa BO, parce qu'il y a quand même pas mal de choses à dire. Sur la scène indépendante des jeux vidéo, il y a un phénomène qui est un peu parallèle, je veux dire, au grand public, au grand titre AAA, c'est que c'est un peu du bouche à oreille, surtout au niveau de la musique, c'est-à-dire qu'ils travaillent beaucoup avec des artistes qui démarrent, qui sont peu connus. Et ici, c'est le cas, notamment, Hotline Miami a fait un buzz autour de lui plus par le fond et le teint du jeu.
C'est thématique, quoi.
Qui est quand même extrêmement violent. Faut pas se cacher. C'est pas un jeu à mettre devant tous les yeux. Par contre, il y a la musique a vraiment un impact sur tout le monde. N'importe qui a joué peut pas passer à côté de la musique. Mm-hmm. Ça fait énormément dans ce jeu-là.
Et je crois qu'on l'apprécie d'autant plus si on a joué au jeu.
Oui, vraiment. Ils ont vraiment fait un très très bon travail de choisir cette voie-là. Parce que bon, faire un jeu qui est dans le thème des années 80, qui joue à fond sur les clichés des années 80, qui s'en cache pas du tout, qui le revendique, trouver la musique qui va avec sans tomber dans les gros clichés tout pourris, c'est quand même assez chaud.
C'est clair. Mais ça parle de quoi exactement, Hotline Miami ?
Ça parle pas.
ça tape.
Non, effectivement, ça ne parle pas. C'est que du texte et de la musique. Et donc, le scénario, en gros, c'est un personnage se réveille, on le vit avec lui, hein. On ne connaît pas l'histoire avant le personnage principal. Et en gros, on lui donne des informations un peu au compte-gouttes et on découvre avec lui, on comprend un peu plus l'évolution du scénario et les tenants et les aboutissants. Donc on lui donne au fur et à mesure des missions et en gros, il part à chaque fois, il débarque dans un lieu et il vide tout, quoi. Je veux dire, il défonce tout ce qu'il trouve. Et c'est, pour ceux qui ont joué à Super Meat Boy, c'est du die and try, donc c'est exactement la même chose. En plus précis, au niveau...
C'est du milliseconde.
C'est vraiment la milliseconde. Quoi. Mais sauf que dans Super Meat Boy, il faut vraiment apprendre quasiment le niveau par cœur. Quoi. Ici, on peut y arriver en anticipant un minimum parce que bon, on affronte quand même des ennemis dedans qui ont une pseudo-IA, pas très loin non plus. Et il faut bien savoir où on va, comment on fait. Si on fait trop de bruit, ça va ramener les autres, donc il faut faire attention. Mais tu te plantes une fois, tu recommences, quoi. Et en avant, quoi. Donc c'est en avant, en avant, en avant, en avant.
C'est aléatoire, les niveaux ?
Non, non.
Parce que j'avais vu les graphismes, j'ai trouvé ça horrible.
Mais c'est du old school, hein. Ils sont partis dans le trip 16 bits.
Ouais, mais je me demandais si c'était aléatoire, parce que vu le style de graphisme, non, non.
Non, non, non.
Non, c'est voulu.
Et donc, d'entrée de jeu, quand on est confronté à ce jeu-là, bon, déjà, forcément, on se demande où on est tombé, parce que c'est vrai que c'est pas très joli. Mais
c'est intéressant, c'est vite, graphiquement. Hein.
C'est vite absorbé, je veux dire. Et je me suis retrouvé à essayer d'y jouer pendant une heure en me disant, justement, pour un peu creuser la BO et voir un peu si, ce que ça valait, si c'était intéressant. J'ai pas lâché mon clavier pendant une heure et puis je tremblais, quoi, après. Hein. Je tremblais un peu, quoi, parce que je me disais, c'est pas possible, il faut que j'arrête. Non, encore une fois. Encore une.
Et c'est pas trop frustrant, je veux dire, faut pas être un power gamer ou un genre là pour réussir à faire les niveaux ou c'est parce que tu dis c'est à la seconde près, donc moi je me dis je suis nul à ce genre de truc. Soyons clairs, maintenant
faut pas faire de l'hypertension, c'est tout. Ça c'est sûr.
Ah, donc, moi j'ai un clavier mécanique à 150€ et ma touche R elle y est passée, quoi. C'est pour retry.
Mais ton avis justement, Johnny, toi qui es plus dans le gaming, tu l'as testé, tu as joué?
Ouais, je l'ai acheté Day One parce que j'en avais entendu parler. Enfin voilà, bouche à oreille, comme tu disais avant. Et c'était un de mes jeux de l'année, franchement, bah pour sa BO, parce que c'est de l'indé, parce que ça propose autre chose, et parce que c'est complètement barré. Quoi. T'as l'impression d'être sous LSD quand il joue, avec la musique.
Vraiment.
La musique, vraiment, dans les oreilles, les grosses basses, t'es concentré parce que c'est, comme on disait, c'est à la milliseconde près, quoi.
Moi qui arrête de fumer, il faut que j'essaye ça, en fait. C'est
les graphismes, les néons, les couleurs flashy, c'est un univers unique et ça vraiment à tester, quoi.
Donc moi-même, je peux m'y mettre, en fait. Hein, donc c'est pas trop compliqué.
Non, pas du tout. Hein, tu peux y aller sans. Mais faut pas avoir peur. Hein, au bout d'un moment,
j'ai pas peur. Le matin, en slip, ça fait du bien, ça réveille bien, apparemment.
Surtout que tu te dis, c'est vraiment dans le trip des années 80. Mm-hmm. Donc. Ça pique un peu les yeux aussi. Donc c'est pour te réveiller, tu vas te réveiller. Hein, okay.
Parce que t'as pas le temps de cligner des yeux, en fait.
Ok. Donc t'as les yeux rouges dès le matin dans le métro. C'est ça. Ça te fait bien.
Et donc, c'est sur quel support, forcément.
C'est sur quel support?
Sur PC.
Que sur PC?
Je pense que c'est uniquement sur PC. Ouais.
Exclu PC, moi, à mon avis. Ouais.
Mais apparemment, ils parlent d'un portage. Je pense ils ont été approchés pour faire une adaptation sur mobile. Mais les commandes sont trop précises et le touch, ça va juste pas être possible.
Ouais, c'est ça que j'allais dire, même y jouer au pad, franchement.
J'ai essayé au pad, il n'y a pas moyen.
À sa sortie, il était bien buggé le jeu, donc le pad ne fonctionnait pas. Mais clairement, clavier-souris.
Ah oui. C'était obligé. Enfin, pour moi, ça me paraît obligé.
C'est comme ça qu'on joue aux jeux vidéo. Hein.
Mais
clavier souris, moi, le pad.
Ouais, FIFA, clavier souris, ça risque.
Ouais, c'est ça. Oui, jouer à Batman Arkham Asylum.
Ah, mais moi, je le joue en clavier souris. Ouais, hein.
J'étais mazo. Encore, hein.
Mais donc, pour revenir à la BO. Donc j'ai un peu gratté, j'ai un peu été voir ce qui se passait là derrière. Donc j'ai quand même relevé pas mal de liens entre les gens sur cette scène un peu électro, rétro, 80. Alors j'essaie d'écrire en résumant le style qu'on pouvait donner.
Ouais.
J'ai vraiment galéré, quoi. Alors, j'ai mis.
On sent encore la souffrance. Là,
j'ai trouvé des styles que j'avais jamais entendu avant. Quoi. Par exemple, du rétro-futur.
Ouais. Ah, si, ça, j'avais
en fait, moi, je l'ai la BO de Hotline Miami. J'ai téléchargé. Bon, j'avoue. Et c'est vrai que. Mais c'est quand même de l'électro, moi, je trouve, globalement.
C'est très électro. Moi, je classerais plus ça dans l'électro-80s.
Ouais.
Je trouve que c'est ce qui colle. Il y en a qui te font de la new électro.
Mais on parlait de cyberpunk la dernière fois. Ouais. Et je trouve que ça colle bien.
Ah, voilà.
Cyberpunk, pour moi, c'est la BO de Ghost in the Shell, par exemple. C'est aussi de l'électro un peu futuriste. C'est pour moi, j'appelle ça du cyberpunk, clairement. Quoi.
Mais on a fait un Shadowrun il n'y a pas longtemps.
Et j'aurais bien mis ça, moi.
Et voilà. Et j'ai directement pensé à mettre ça en BO, dans le fond. Et surtout, un des types qui se trouve sur la tracklist, qui est Perturbator.
En français.
Qui est un jeune gars d'une vingtaine, même 20 ans, je crois qu'il est, 9 ans, 20 ans. Et ça fait un moment déjà qu'il fait des EP sur le net exclusivement, parce que bon, c'est la plateforme idéale pour se lancer. Et il fait un super travail, franchement, c'est... J'ai rien à redire, quoi. Franchement, un type super jeune, bourré de talent comme ça, ça fait plaisir, quoi. Et on retrouve évidemment sur la BO, on retrouve des gens comme Jasper Byrne, El Huervo, qui est quand même... plus connu déjà depuis un moment, qui fait... Oui, j'ai pas l'accent. J'ai pas du tout l'accent, je suis désolé.
El Huervo.
Et qui fait d'ailleurs des super zilus, qui fait des super zilus qu'on peut retrouver sur son site Bandcamp, et qui colle d'ailleurs aussi au style cyberpunk. Et toujours vis-à-vis de cyberpunk, il y a Perturbator qui a vu, un peu comme tout le monde, le trailer de Cyberpunk 2077. Tout le monde l'a tout de suite dit, il faut absolument que tu les contactes, ils sont à la recherche de gens, c'est le moment, il faut que tu fasses la musique, quoi. Et ben, il ne s'est pas privé, donc il a repris le trailer et il a mis sa musique dessus. Et alors, je vais le poster, je l'ai déjà posté sur la page Facebook de l'œil carnivore, je reposterai encore un truc sur le site pour qu'il y ait quand même une trace un peu plus durable de ce travail-là, parce que ça vaut le coup. C'est pas du tout le même trailer. C'est ça colle bien mieux à la musique qui
nous... Je suis curieux de voir ça.
J'aime bien la musique d'Archive, mais je dois dire que là, on sent que c'est la musique qui a été faite pour. Hein. C'est pas une musique qui a été tapée dessus, quoi.
Ouais.
Et je m'écarte encore un peu du sujet, mais il y a tellement de trucs à dire parce que j'ai vraiment gratté. Il y a.
Il y a Moon aussi.
Il y a Moon. Il y a Moon.
M O O N. Il y a une chanson qui est monstrueuse. C'est Paris. Je sais plus.
Paris.
Ouais. Paris. Monstrueuse, énorme.
Il y a Crystals 2 aussi. Il y en a encore une autre qui a
réalisé. Comment ils ont fait pour récupérer tous ces jeunes talents? Parce que cette BO, elle est fait limite. Ça fait limite triple A, quoi. Il y a de noms de
BO de films de Quentin Tarantino.
Non, pas Tarantino. J'aurais plutôt dit l'autre, là, le tordu, là, comment il s'appelle encore, le mec qui a fait Irréversible et tout ça.
Gaspard Noé.
Voilà, j'aurais pu. Tu vois le dernier film qu'il avait fait, là, je ne sais plus comment il s'appelait. Bref.
Au niveau des contacts, je sais bien que Perturbator, il a été contacté via Facebook par Cactus. Un gars qui bosse sur...
Des développeurs.
Un des devs. Pour des artworks qu'un de ses potes avait fait. Donc,
c'est lui Orvert. C'est lui Orvert qui a fait toutes les illus de Perturbator et qui fait des illus absolument 80s.
Et du coup,
énorme.
Ils ont écouté ses sons et il a un peu travaillé comme ça en délocalisé. Quoi. Il a envoyé ses sons aux développeurs, ils réagissaient.
Et c'est tout tourne... Bah, Je posterai aussi les liens parce que il faut aller sur les sites Bandcamp de tous ces gens parce que la plupart filent leurs albums gratuitement.
Enfin, ouais, tu donnes ce que tu veux.
Tu donnes ce que tu veux. Tu peux donner zéro et tu peux le télécharger. Tu peux. Je crois que pour la BO entière, je crois que Miami Hotline Miami c'est 9€, je crois plus ou moins. C'est plus cher que le jeu. Entre parenthèses.
Ah ouais, c'est pas faux.
Là ils ont un petit peu foiré quand même. Mais d'autant plus que dans le jeu il y a toutes les OGG. donc ouais. C'est un peu con d'avoir fait payer plus cher la BO.
Bah, ça dépend, la qualité est peut-être meilleure.
Non, pas vraiment, non.
Non, mais en même temps, c'est... ils ont filé leur musique pour le jeu parce que voilà, c'est sans doute un projet qui leur plaisait, etc. Et puis chacun se fait connaître grâce à ça, au fait. Au ouais, final aussi, c'est un espèce aussi, hein. D'un win-to-win là-dessus, autour de ça.
Évidemment, il y a plus de valeur ajoutée à acheter le jeu de toute façon, parce qu'il y a des artworks, c'est
on
tout
parle
ça.
De Perturbator autour de la table, mais sans Hotline Miami, on ne parlerait pas de lui aujourd'hui. Parce qu'on,
non,
on
non, c'est, pas pour, ce ça que, là, c'est pour ça que je conseille
parce
vraiment
grosse plus-value,
Bandcamp, parce qu'il y a plein de liens, il se renvoie la balle dans tous les sens. Hein.
C'est ça.
Et ça permet de passer, moi j'ai passé quasiment toute une après-midi à rebondir comme ça entre des... Entre des DJ, des illustrateurs.
Il y a un certain Ralph, ou Ralph, sur la BO. R-A-L-P.
Je ne pense pas.
Non. Bah, je vous invite à aller le voir sur FMA, Free Music Archive, qui d'ailleurs est un site aussi où on peut trouver tout ce genre d'artistes et de styles musicaux complètement gratuitement. C'est de la musique libre de droit, et donc tous ces artistes donnent gratuitement leur album sur le web. Et on peut payer, on peut les acheter en version limitée, enfin limitée plutôt. Ça vaut la peine, Ralph.
Ouais,
c'est à mon avis un peu façon, le même style, musique 8 bits un peu rétro, assez trash. Mais
le
bon,
modèle
voilà.
Économique de payer ce qu'on estime pour un album, moi je trouve que c'est comme ça que ça aura de toute façon
et sans
toujours
éditeur.
Être. Et sans éditeur. Ça va, beaucoup, ça va directement chez l'artiste. Enfin, pour moi, c'est le modèle économique à soutenir en tout cas.
Mais Hotline Miami a fait encore mieux.
Avec
ils ont
Torrent.
Ils l'ont mis donc sur je ne sais plus quel site de Torrent. Et la prod a patché le jeu.
Sur le site de Torrent.
Et c'était officiel. C'est Cactus qui l'a mis à disposition. Et il file les patchs pour la version piratée. Quoi. Donc le type, il a compris. Quoi. C'est comme ça qu'on se fait connaître. Quoi.
Ouais.
Oui, d'un autre côté, effectivement, si sur le site même de Miami, il y a moyen de donner, je sais pas moi, 2, 3, 4, 10 euros, 20 euros parce qu'on a aimé le jeu, pourquoi pas aussi, c'est une solution. Le nombre de fois où, effectivement, je me suis retrouvé avec de la musique d'un artiste que j'aime bien, mais la seule solution, c'est d'aller acheter le CD à l'extérieur et le payer 17 euros, alors que si tu pouvais donner directement à l'artiste quelque chose, parce que voilà, j'ai apprécié son boulot, c'est peut-être une solution. Je sais pas si ça marcherait pour tout, par
mais
contre.
Ça arrive, hein, mais ça arrive de plus en plus souvent. Moi, je vois le dernier album de Destroy Angel, quelque chose comme ça. C'est comme ça que je l'ai chopé. Et pourtant, c'est Trent Reznor qui l'édite. Tu vois, donc c'est pas que des gens qui sont peu connus ou de la scène underground. C'est aussi des gens qui sont du grand public.
Oui, c'est ça. Je pense que Radiohead avait fait ça.
Radiohead, oui, justement, l'avait fait avec un album. Ouais.
Des très grands. Mais juste pour, je sais pas si t'as fini.
Est-ce que j'ai fini?
Yeah.
Oui, c'est bon. Je pense.
Essaie de prononcer le nom du gars de tout à l'heure.
Tu parlais
lequel Eric là
ouais. C'est qui ce gars là en fait?
Attends.
Non, c'est Jonathan.
Oui, non, ça c'est un des deux. Ça c'est Cactus, je crois. C'est Jonathan Söderström. Mais
joli.
Oui, ça c'est facile. L'autre.
C'est parce qu'il a fait des études.
Il y a du niveau pour l'autre.
D'histoire du cinéma et Söderström, il savait le prononcer.
Non, je ne le dirai pas. Je le dirai.
Non, voilà.
Je ne veux pas me prendre une tôle. Non, je ne le dirai pas.
En tout cas, en parallèle à ça, moi, ce que je voulais dire, c'est que ça m'arrive de plus en plus souvent d'écouter des musiques de jeux indépendants et même des musiques de triple A et des choses comme ça. Mais je trouve vraiment que dans la scène indépendante, on trouve des petits bijoux. Absolument. Vraiment des musiques qui sont géniales.
Ah, c'est celle de Bastion qui m'a marqué quand même pas mal.
Ouais,
Bastion, elle était excellente. Quoi.
Autant j'ai pas aimé le jeu. Autant la BO, je l'avais trouvé sympa. Ouais.
Comme les voix d'ailleurs étaient terribles. Hein. Ça a été enregistré par un des potes du développeur dans leur toilette, quoi, dans leur chiottes. 5000 phrases, elles sont terribles. Il faut les entendre. Johnny, tu voulais encore dire un truc?
Ouais, que Hotline Miami 2 a été annoncé.
Il est à quel prix actuellement le premier? Parce que moi je l'ai raté de case, là vous m'avez bien chauffé.
Il doit être à 7 euros maintenant,
ouais,
quelque chose comme ça.
Moins de 10, quoi, 9 euros.
Le prix vrai d'un menu. Quoi.
Est-ce que il est sur Steam, c'est ça hein?
Ouais.
Sur Steam, il ne propose pas la BO? Parce qu'ils font souvent ça.
Attends, la BO, je ne sais pas.
Genre, tu prends une version style version de luxe et t'as la BO avec.
Mais je ne saurais pas dire comme ça.
Moi, je l'ai pris sur Good Old Games. Hein. Donc, moi, j'ai eu la BO avec. Donc,
Good Old Games de CD Projekt.
On en
parlait la dernière fois, d'ailleurs.
Super. Un grand merci, Luc, pour ce sujet qui mêle en jeu vidéo, musique. En plus, ça vaut la peine d'aller revoir. Est-ce que ça va être publié sur le site ou pas?
Ouais, je mettrai des liens parce que je ne me suis pas trop étendu sur les liens, mais il y a encore plein d'autres choses à aller choper.
Super. Donc, je suis rassuré. Je ne vais pas me casser le cul à aller chercher. Je vais attendre que tu publies l'article sur les carnivores. Allez, un grand merci. On va tout de suite passer après une petite pause, histoire de recharger les batteries, avec Johnny Blaze et un sujet un peu particulier hors jeu vidéo. Louis C.K.
Ouais. Pour une fois, je vais pas vous parler de jeux vidéo. je vais vous parler d'un comic que j'ai découvert il y a il y a quoi, il y a 3 mois. Faut savoir qu'il y a pas beaucoup d'humoristes qui me font marrer.
c'est pas un petit comique Ludo.
Franchement, voilà, je suis un gars triste, sans âme, voilà, sans sentiment. Et
et là, le bruit d'un fusil. Un peu, quoi, tu vois.
Mon humoriste préféré, c'est Kurt Cobain.
Et tu sais, à un moment, tu tournes en rond, quoi. Genre, spectacle de Jerry Seinfeld, je le connais par cœur, son sitcom aussi, tu vois. Tu vois, j'ai une petite application, TV Showtime. Donc c'est pour un agenda de séries, etc. Voilà, parce que je suis un gros sériephile. Et donc tu vois le temps passé à regarder des séries, donc tu listes les séries que tu regardes, etc. Et ça te calcule si t'as regardé les
10 saisons peur, tel ça, truc,
quoi, c'est super trash, tu vois. Et là.
C'est pire que le pire que donc, comment ça s'appelle quand
Slash Blade
dans les mémos.
Ah bah c'est limite ça quoi. Et donc en temps passé devant les séries, je suis à 3 mois, 25 jours, 11 heures et 4 minutes, tu vois. Sauf que ça prend pas en compte les épisodes que tu as vu plusieurs fois, tu vois.
Mais ils sont pas fous à ce point-là.
Ils sont pas fous à ce point-là, non, mais donc ça aurait fait facilement 6 mois si ça prenait en compte le nombre de fois que j'ai regardé
mais tu t'endors dessus, ça tourne en boucle.
Non.
Et là, blanc.
Donc tout ça pour dire que j'ai vraiment eu. Enfin, Louis C.K. c'était un vent d'air frais pour moi. C'était vraiment une découverte géniale. Donc c'est un comique qui fait du stand-up. Donc stand-up, c'est à la différence des sketchs où c'est des mini pièces de théâtre. Stand-up, c'est le gars il parle. Enfin, c'est quand même des sketchs parce que il sait. Enfin, c'est pas de l'impro, mais il parle au public. Voilà, il raconte un peu sa vie ou des petites anecdotes. Au public. Et il faut savoir que son humour, c'est un mix entre des petites observations fines de la société, des gens, des habitudes, etc. Et de la grosse blague trash à la Bigard, on va dire. Tu vois. Donc, tu vois, de temps en temps, du truc bien gras pour faire rire tu vois, ceux qui s'étaient un peu endormis et qui n'avaient pas capté la blague d'avant. Donc, Louis C.K., il fait du stand-up depuis 86.
Ah ouais.
Et donc, tu vois, c'est quand même un vieux baroudeur. Ouais. Il tournait sur Boston beaucoup. Il a travaillé comme scénariste pour Conan O'Brien. Et il a gagné un Emmy Award pour un scénario dans The Chris Rock Show en 99. Donc, voilà. Il
touche sa vie, quoi.
Il touche sa vie. Et le gars, il dit, de temps en temps, je bosse 2 heures par semaine. De temps en temps. Donc, il dit, c'est pour ça que, voilà, moi... le gars il a pas une vie comme les autres quoi, tu vois.
Bah en même temps alors
comme moi,
oui voilà c'est un peu comme moi toi, quelque part quand tu m'as dit que tu voulais faire une chronique sur Louis C.K. je connaissais pas, donc je me suis dit bon bah je vais regarder
c'est
sur internet
que je voulais faire cette chronique.
Bah oui et donc je vais regarder 2 sketchs. Un qui parle de son gamin et du fait qu'il doit essayer de le faire manger et que pour ça c'est super dur, etc. Parce que si jamais il mange pas, bah, il devient tout maigre et à ce moment-là, bah, la justice américaine risque de tomber dessus pour mauvais traitement, etc. Donc il galère à fond. Il dit que quand ils sont tout petits, ça va, on peut les forcer et tout. Je pense que ça va te parler, Luc. Mais que dès que ça commence à grandir, ça commence à être très dur. Et après, il parle de son chien. Alors ça, c'est un autre sketch où il parle de son chien. Et alors ça, je ne sais pas si c'est vrai. On pourrait peut-être me confirmer, mais notamment, apparemment, si un chien mange du chocolat noir, il risque de mourir. C'est vrai ou
pas ? Le chocolat, c'est très mauvais pour les chiens.
Ouais. Apparemment.
Non, il risque de mourir, vraiment ?
En fait, ça, c'est comme une toxine pour eux.
Ah, d'accord.
Les fruits de mer, il me semble aussi, genre les scampis.
Peut-être,
je ne sais pas. Les fruits de mer au chocolat,
du tout. Ça c'est banco, là.
Mais donc, il raconte que son chien avait mangé une barre de chocolat polonais, de chocolat noir polonais. Et donc, il panique, il sait qu'il doit lui faire boire de l'eau oxygénée. Alors déjà, ça me paraît bizarre. Et donc,
il voulait vraiment le finir.
Il n'en a pas chez lui, donc il file à la pharmacie et après, il essaye de faire boire ça à son chien, évidemment en pleine rue, donc avec des gens qui se demandent vraiment ce qu'il est en train de faire à son pauvre chien, etc. Donc, il essaye de leur expliquer, mais oui, mais si je fais pas ça, il va crever, etc. Ben voilà, faut le regarder, c'est assez drôle. Moi, j'ai trouvé ça...
Est-ce que c'est sous-titré ?
Oui. Alors, heureusement, en tout cas, moi, ce que j'ai vu, si on tape les noms en français... C'est sous-titré. Parce que c'est vrai que bon, ça reste de l'américain assez rapide, avec des jeux de mots et des choses de ce genre-là. Je ne sais pas si c'est bien sous-titré, mais en tout cas, il y a moyen pour un francophone de le comprendre.
Ça se trouve où, ça ? T'as 2-3 vidéos sous-titrées sur YouTube. Mais sinon, donc Louis C.K., il est Donc je disais qu'il était scénariste pour différents shows connus aux États-Unis, mais il est principalement connu par le grand public pour ses spectacles pour la HBO. Il a fait 3 spectacles, Shameless, Shoot Up et Hilarious. Et c'est vraiment pour cela que, pour ça qu'il est connu. Et ceux-là, il y a moyen de les choper légalement, bien sûr, sur différents sites VOD.
Shameless, c'est bien acide hein, comme humour.
Tu l'as vu ?
Ouais, Shameless. Ouais, ça m'étonne pas que ce soit lui derrière. En fait, si d'après ce que tu dis.
C'est son
style d'humour qui repasse par là, alors je dois peut-être bien aimer le gars, quoi.
Ouais, Shameless, c'est un spectacle qu'il interprète lui, hein.
Je connaissais pas le gars, quoi. Okay, je savais pas du tout que c'était. Je connaissais pas son nom.
Et t'as des stages qui t'ont marqué, toi ? Enfin, des parties de spectacle qui t'ont marqué ?
Ouais, j'en parlais un peu, quoi. Enfin, juste pour terminer sur ce qu'il a fait, il a fait une série Lucky Louis en 2006 et puis Louis en 2010, où il y a 3 saisons. Et il joue un peu sa vie de comique et de père divorcé, parent de 2 petites filles, voilà. Et assez sympa. La série, elle est assez sympa dans le sens où. C'est sa vie, donc ça semble réel. Et de temps en temps, t'as un épisode totalement barré, limite burlesque, où il se passe des trucs what the fuck, tu vois. Mais sinon, aussi marrant que... Enfin, chaque épisode, c'est un petit sketch vraiment, vraiment sympa. C'est,
et c'est des épisodes de combien de
20
temps
minutes.
20 minutes
Je sais plus, quelqu'un m'avait posé une question avant, juste avant.
Les questions, c'est après, non ?
Non.
Non, des sketchs marrants, ouais.
Oui, sketchs marrants, voilà.
Des histoires.
Alors, certaines expressions qui te sortent comme ça, comme suck a bag of dick, tu vois ?
Ah, mais j'ai déjà entendu ça.
Et puis, c'est il explique sa vision du sac de bite, quoi. En gros, il t'explique que le gars, il roule dans sa caisse, puis il fait une queue de poisson à un type. Et puis à un moment, le gars veut se mettre à son niveau pour lui parler, quoi, tu vois. Et tu sais, le gars, Louis C.K., il empêche le gars de se mettre à son niveau parce qu'il sait qu'il va se faire insulter. Mais à un moment, pas de bol, feu rouge. Donc ils sont côte à côte tous les deux. Et l'autre gars, tu sais, il lui fait des grands signes pour qu'il ouvre sa vitre, quoi. Bah, tu sais, il n'a pas envie de se faire insulter, donc il veut pas ouvrir sa vitre, le gars, tu vois. Puis il fait, bon, tant pis, je vais participer à ma propre humiliation. Et il ouvre sa vitre. Et puis le gars, il lui fait, hey mec, va sucer des sacs de bites. Et puis il part, tu vois. Et puis Louis C.K. il fait comme ça, ouais, mais moi je suis un peu triste qu'il soit parti parce que j'aurais voulu lui poser plein de questions, quoi. Comment il imagine le sac de bites, quoi, tu vois, qu'est-ce qu'il voulait que je suce, le sac, le contenant qui contient les bites, et ce serait comment elles seraient mises, les bites, dedans, tu vois, que ce serait plein de bites. Est-ce que je devrais sucer chaque bite indépendamment, est-ce que je devrais les faire jouir, les bites, tu vois, enfin voilà, ça c'est dans le genre,
d'accord, ouais.
Il est bien trashy quand même, quoi.
Donc tu parlais de ses enfants, de ses filles, ben, il faut aussi enfin il explique son rôle de père, mais dans le sens assez hilarant du truc. Et après il a aussi axé cul à mort, de temps en temps, ouais, c'est de l'humour bien gras, mais à chaque fois c'est super drôle. Il y a un sketch aussi assez énorme, c'est il prend la voix de Dieu, donc c'est Dieu qui redescend sur terre, et il demande aux gens, mais pourquoi, qu'est-ce que tu es en train de faire là, tu vois, pourquoi tu fais ça, tu vois. Et
il s'interpelle lui-même, ouais, en fait, pour
c'est
expliquer.
C'est juste très drôle, quoi.
Mais là, ce que tu dis, c'est quand même pas mal des sketchs. En quoi c'est du stand-up, en fait ? C'est dans ses spectacles, il joue beaucoup avec le public ou
C'est pas tant qu'il joue beaucoup avec le public, mais enfin, je sais pas comment.
C'est peut-être plus raconter des histoires que le fait
de. C'est plus raconter. C'est vrai qu'au final, c'est quand même des sketchs. Enfin, on dit stand-up, mais à chaque fois, c'est quand même une petite blague. Mais c'est pas vraiment un sketch avec une mise en scène.
T'as pas de mise en scène, en fait, surtout.
Et c'est t'as ça. Pas vraiment.
Ouais, ouais. Ouais, pas de mise en scène, ça dépend.
Ça fait d'être debout.
Un comique qui raconte une histoire, même si ça a l'air super simple, ça demande une mise en scène. Une histoire drôle, moi, si je vous raconte une histoire drôle là maintenant, je pense qu'à mon avis, elle sera pas drôle, malgré le fait qu'elle peut être très drôle dit par quelqu'un d'autre.
Ça demande que t'es assis.
C'est ça, oui, voilà, déjà c'est ça, stand-up.
Voilà, déjà.
De vous, mec.
Non, mais moi j'avais vu du stand-up à New York quand j'y étais allé. Et c'est vrai qu'il y a une base.
Le gars il sait quoi raconter, c'est pas de l'impro, tu vois.
Voilà, non, mais il y a une base, effectivement. Ça veut dire que le problème du stand-up, c'est qu'il faut toujours alimenter. Et il faut, à ce moment-là, tu réagis avec le public, mais évidemment, tu sais pas ce que va te donner le public, mais il faut toujours retomber sur des blagues. Donc au final, ils ont quand même un stock d'histoires.
C'est un peu de l'impro.
Mais le stand-up est très proche de l'impro, c'est-à-dire que tu vas dire un truc, il y a quelqu'un, il va dire, tiens, je sais pas, moi, hier soir, par exemple, je suis allé voir Malik Bentala, qui fait du stand-up, qui a fait partie de l'équipe du Jamel Comedy Club, etc. Et qui mêle justement les sketchs et du stand-up. Et la partie stand-up, c'est... justement à des moments où il dit tiens, est-ce qu'il y a, je sais pas moi, des Arabes dans la salle, évidemment les autres réagissent, et puis il y en a un qui va dire un truc un peu plus élevé que les autres, etc. Et à ce moment-là, il va réagir, il va interagir avec cette personne, ça va donner, il va faire des blagues en relation, etc. Et c'est effectivement là complètement de l'impro, même si à mon avis ils ont certaines blagues qui recyclent de spectacle en spectacle, mais de manière générale c'est un peu ça le stand-up.
Au final, ce que tu dis là, quand il dit est-ce qu'il y a des Arabes dans la salle, c'est pour déclencher, il sait lui-même ce que ça va déclencher comme
tout à fait, mais par exemple nouvelle, bon alors par
sketch,
exemple
blague, quoi,
voilà, mais par exemple ce qui s'est passé hier soir, c'est un moment il dit il pose des questions à quelqu'un et il lui demande mais qu'est-ce que tu fais comme boulot, et l'autre lui répond dans l'Eureka. Alors au début il comprend pas l'Eureka parce que c'est un français, ouais. Et il y a que les Belges pour comprendre que c'est en fait la restauration, etc. Ouais, et donc il finit par comprendre que c'est la restauration, donc il dit bah tu nous invites tous après le spectacle, et puis à ce moment-là il y en a un autre en haut qui dit ouais c'est toi qui invite, il n'y a pas de problème, ou je sais plus, bon, il le dit d'une certaine façon. Donc à ce moment-là, il se tourne vers l'autre, il réagit avec, et c'est ça qu'il réagit avec le gars en lui disant mais t'as fait quoi comme étude pour avoir cette expression, etc. Machin. Bah, effectivement, derrière, il va retomber sur un truc en rapport avec un sketch plus ou moins préparé. Évidemment, ils ont des bases sur l'éducation, etc. Mais c'est effectivement énormément une relation. Qu'est-ce qu'ils foutent les autres ? Une relation avec le public, et c'est ça qui rend le stand-up assez fort et assez peu connu finalement dans nos contrées.
Bah, c'est des gars qui ont de la tchatch, mais un des comiques au niveau commercial qui fonctionne le mieux, c'est Gad Elmaleh. Gad Elmaleh, c'est.
Oh non, pitié !
C'est de l'imitation de Jerry Seinfeld à la française, et c'est du stand-up. Or que, ben voilà.
C'est pas drôle, Gad Elmaleh aussi.
J'ai jamais dit que c'était drôle, j'ai dit que c'est un des comiques commercial qui fonctionne le mieux.
Reste calme, reste calme.
Donc c'est pas forcément underground, quoi, tu vois ce que je veux dire.
Ah, je dis pas du tout que c'est underground, pas du tout.
Genre le Jamel Comedy Club,
c'est pas underground du tout. Hein,
c'est pas underground du tout, et c'est des comiques de stand-up.
Non, ce que je veux dire par là, assez inconnu dans nos contrées, c'est dans le sens où c'est pas du style de comique habituel. Bah, il y a le Jamel qui a commencé à faire à ne pas confondre avec le one-man show, c'est pas la même chose en fait.
Est-ce que un one-man show, ça peut être un one-man show stand-up, mais je pense que, pour moi, je différencie le stand-up de sketch, de petites scénettes avec limite le rideau qui s'ouvre et voilà, t'as une petite
bon bah de toute façon
la
en tout cas
si l'idée c'est de regarder, je
voilà, de regarder. Et pour terminer le gars il a un petit côté attachant, mais tu remarques surtout ça quand il parle de ses enfants, et tu le vois encore plus dans la série Louis. Tu sens que le gars, il a des valeurs qu'il veut faire passer, malgré que, juste avant ça, il dit une atrocité énorme sur des bébés chinois, des trucs super trash. Mais tu sais que c'est pour rire. Enfin, je vois pas comment tu pourrais mal interpréter ça. Et après, donc, il veut te faire passer sa petite expérience, sa petite morale à lui. Et franchement, ce gars semble sincère, quoi. Donc, genre, l'arrivée de ses spectacles, il arrive en métro... il arrive par la porte d'entrée, il passe à travers tout le monde qui est là, qui attend que la salle soit ouverte, il dit bonjour à plein de gens, et voilà, le spectacle commence comme ça, tu vois. Donc on est à des années-lumière du gars qui débarque en jet privé, puis avec son autocar blindé et ses 30 gardes du corps, enfin tu vois.
Comment tu appelles Louis C.K.
Ouais, Louis C.K., donc c'est son nickname, parce qu'il a un nom assez trash, Louis C.K. Ben voilà, je ne sais pas comment ça se prononce. Donc Louis C.K., c'est Louis C. K. Louis C.K. Okay. Voilà, commencez par je sais pas, la série ou le premier spectacle Shameless, mais il y en a pour tous les goûts, et c'est vraiment un comique qui mérite d'être beaucoup plus connu et reconnu.
Louis C.K. donc présenté par Johnny Blees, même chose, hein, encore une fois dans les carnivores, on balaye large, spectacle aussi.
Exactement.
Ah, sinon, je peux me faire un petit coup de pub.
Oui, parle, oui, voilà.
Vas-y, fais-toi plaisir.
J'en parle sur ma partie du blog, donc dans le blog de la rédac.
Sur le blog jeux vidéo.
Sur le blog jeux vidéo, on a une chronique qui s'appelle le coup de Projo. Chaque semaine, c'est un des rédacteurs qui fait son coup de Projo. Et cette fois, c'était sur Louis C.K. La fois précédente, c'était sur... c'était quoi mon ancien coup de Projo ?
Bonne question.
C'était sur trois vigilantes sud-coréens exceptionnels. pour ceux qui aiment les bons films sud-coréens.
Oui, il a vraiment une culture assez...
c'est pas des vraies vigilantes, c'est un film sur des vigilantes, mais c'est pas des vraies vigilantes dans la réalité.
Non, non, heureusement, parce que ceux-là sont particulièrement trash.
Eh bien, merci Johnny, allez, on continue.
On fera le lien sur le site de l'œil carnivore.
Et on continue avec le premier sujet de Darby, truc que je ne connais pas du tout, c'est le Freestyle Me.
Bah tout à fait, moi je vais vous parler de musique un peu. Donc le Freestyle Me, en quoi ça consiste? Donc imaginez, vous êtes dans la rue, en train de marcher calmement, et puis il y a une équipe avec une caméra qui vient et il vous demande, donnez-moi un mot, par exemple un mot en anglais. Vous donnez le mot en anglais.
Fuck.
Voilà, ça peut arriver, c'est déjà arrivé. Et on prend le mot et on part donner un artiste belge, faut souligner quand même, il y a beaucoup de talent ici, qui s'appelle OG. Donc c'est un artiste, c'est un chanteur, on va dire, chanteur, rappeur. Et lui, en fait, son équipe va le piéger. Il est par exemple au cuic avec sa copine et hop, on arrive avec le Freestyle Me Box, ça veut dire le box qui contient tous les mots qu'on a rassemblés dans la rue, et on lui passe et il doit faire un freestyle dessus pendant 5 minutes. Donc il a 5 minutes pour écrire le freestyle, et puis il doit le déballer, et puis c'est filmé. Il doit citer tous les mots que les passants lui ont indiqués. Donc voilà, imaginons que le mec il a 8 mots à dire, et là, il doit les placer en 5 minutes dans un freestyle cohérent, une improvisation cohérente, et dire le freestyle. Donc vous pouvez aller voir les vidéos sur internet, ça s'appelle Freestyle Meme, il en a fait 4. Une fois il se fait piéger au quick, hein, il est en train de manger calmement avec sa copine, paf, ça arrive. Une fois il est dans le métro,
mec, fais-moi un freestyle avec ça, voilà. Boum.
Une fois il est dans le métro, tac, il est en train de pointer calmement, boum, ça arrive. Une fois il est en train de faire son shopping, il est dans les vestiaires.
En fait c'est le mec qu'on n'arrête pas d'emmerder tout le
voilà,
temps.
On
l'emmerde
tout le temps, il
à 2h du mat, voilà. Il débarque.
Pour le moment je pense qu'il s'est pas encore énervé, mais ça risque d'arriver. Donc voilà, c'est assez surprenant, c'est assez insolite et marrant. Et
mais il est compatissant au truc, ou...
il est compatissant. Bon, comme il fait de la musique un peu, vu que c'est son équipe qui le piège, il est un peu au courant du truc, mais il est pas au courant de quand ça arrive en fait. Hein. Il peut être là au GB en train de faire ses courses et puis paf, ça arrive. Il doit écrire il doit prendre 5 minutes de son temps pour écrire un freestyle dessus, une improvisation et le lâcher devant la caméra qui vont ensuite publier sur internet. Ouais. Donc ça fonctionne assez bien. Donc ça lui permet de faire plusieurs scènes dont les Energy in the Park. Et tout. Donc voilà, il tourne assez bien pour le moment. Il est belge et c'est un concept assez marrant et assez divertissant. Donc on va publier l'article très prochainement dans l'œil carnivore. Donc restez scotchés.
Voilà, Freestyle Me.
Freestyle Me. Donc
Freestyle Me ou Mime
Me. Donc c'est moi. Donc Freestyle, okay, ouais. Freestyle et moi. Quoi. Donc un jour, je vais vous piéger. Je vais venir avec des mots. Et puis,
ah, il faudra le faire dans le podcast. Voilà. Quoi. Tu dois faire une chronique avec.
Avec des jeux vidéo.
Avec 8 mots dedans.
Avec 8 titres de jeux vidéo. Et puis allez-y.
Ça peut être rigolo, effectivement. Une sorte de cadavre
risqué. Il n'y a que lui qui fait ça?
Oui, il n'y a que lui qui fait ça. En fait. Aujourd'hui, on a parlé de musique tantôt, hein, les jeunes essaient de plus en plus de se faire remarquer via le net, hein, vu qu'on a le net, c'est une véritable révolution, parce qu'il y a 20 ans, 10 ans, il y avait la maison de disque, il y avait l'artiste, la maison de disque et puis le public. Donc tout ce que vous faisiez, c'est ça passait devant, d'abord devant la maison de disque et puis ensuite le public avait accès. Maintenant, on a les plateformes YouTube, Facebook, Twitter, vous filmez un truc et vous le postez directement et vous avez directement les rendus des fans. Donc les artistes essaient de plus en plus de se démarquer et lui et son équipe, ils ont créé ce concept là, quoi. Donc et ce concept, ça marche assez bien, ça fait un petit buzz sur Facebook, sur Twitter, les jeunes partagent ça de plus en plus, donc voilà, ça c'est bien de se faire remarquer comme ça.
Ah, c'est pas mal, c'est original.
Voilà.
Justement, le carnivore
à ce propos justement, c'est agréable de se faire remarquer et de voir qu'il y a des gens qui lisent ce qu'on écrit, qui
bien
s'intéressent
sûr.
À ce qu'on dit, qui écoutent le podcast, etc.
Bien sûr.
Mais c'est aussi important à mon avis d'avoir de temps en temps des retours, ouais, on a bien aimé, etc. Alors, moi, ça m'arrive des fois de rencontrer quelqu'un que je connais même pas et qui me dit « Tiens, j'ai écouté ton émission. » Ça fait bizarre. Maintenant, c'est sympa aussi de le lire sur le site. Non, je suis pas une star, loin de là. mais c'est vrai que c'est important. Je crois que tous les podcasteurs le disent. C'est important d'avoir des retours des gens, juste simplement, bah voilà, j'ai bien aimé ça, ou tel, vous êtes planté sur telle ou telle chose. Mais Internet, effectivement, c'est... Ça permet de diffuser, mais des fois, on se sent un peu seul, entre guillemets. Mm-hmm. On sait qu'on est lu, on sait qu'on est regardé, mais on n'a pas de retour.
Non, mais tu seras toujours seul, Damien.
Oui.
Forever alone.
Non, mais c'est intéressant ce que tu dis. C'est vrai que lorsqu'un artiste publie un clip, ou bien, comme par exemple pour OG, son Freestyle Me, il a directement les retours des fans. Donc, si c'est planté, il va le savoir directement dans les 3 premiers commentaires. S'il a réussi, ben voilà, il y aura beaucoup de likes, il y aura beaucoup de partages. Donc voilà, ça, c'était pas possible il y a 10 ans. Et de nos jours, voilà, on a cette chance-là. Bon, désolé pour les gens qui font des projets qui sont pas aboutis. Ils auront directement les insultes et les trucs qui font pas plaisir, hein, bien évidemment, parce qu'on met un peu de son temps à réaliser ce genre de projet. Mais voilà, c'est, ça permet effectivement, dans ce que tu dis, ça permet directement d'avoir les échos de son travail, de ce qu'on a fait. Donc, on sait à quoi s'en fier. Donc, voilà.
Tu ne m'abuses, Denis.
Ouais, dans le même style, freestyle avec des mots donnés. Il y a un vieux truc qui est sûrement moins de retrouver dans les antres de l'internet. C'est un freestyle d'Eminem.
Oui.
Qui doit y avoir une dizaine d'années. Et pareil, on lui donne des mots, mais là, c'est, c'est sur un plateau, etc. Et ce freestyle est juste monstrueux. Donc, pour ceux qui aiment la technique et.
Bien sûr, bien sûr.
Et les beaux mots, les beaux rimes, voilà.
Voilà. Donc voilà.
Les beaux rimes. Justement, moi, c'est plus largement sur les carnivores. Est-ce qu'on parle de musique? Est-ce qu'on élargit? Est-ce qu'on a une volonté comme ça de découverte musicale ou pas? Ou loin de là? Parce que ça fait deux sujets musicaux qu'on aborde, qui sont super intéressants.
Mais on aime tout le monde.
Oui, en fait, le carnivore, le sous-titre, c'est votre dose quotidienne de pourquoi pas. Alors, quotidienne. Voilà, mais en fait, on va parler de tout ce qu'on aime bien, que ça soit de films, de jeux vidéo et de d'autres choses, mais de musique, de danse, de peinture, de et d'ailleurs, on cherche des collaborateurs qui ont envie de partager aussi leur passion et qui ont un peu la plume facile, qui n'hésitent pas à nous contacter pour participer au site et écrire des articles. Il y a pas de souci, on peut les aider, c'est pas très compliqué à faire.
Ouais, faire découvrir des trucs aussi. Moi, c'était le sens de ma question, c'est-à-dire est-ce que si maintenant je trouve que
c'est ça le principe.
J'ai trouvé Pogo, c'est génial sur YouTube, il faut que vous en parliez.
Mais le principe, en fait, c'est qu'on c'est chaque fois par rapport à des médias artistiques, quand même. Donc on va pas commencer à parler du dernier iPhone qui est sorti, ça je veux dire, moi ça m'intéresse pas. Bon, après je suis pas le seul rédacteur, peut-être que d'autres ça les intéressera, mais voilà. Non, l'intérêt c'est plus de faire découvrir des choses artistiques que nous, qu'on trouve intéressantes, ou alors qui ont fait du bruit pour une chose, ou pour une raison ou pour une autre, etc. Enfin, je ne sais pas ce que les autres en pensent, mais moi, c'est vraiment l'objectif.
Moi, je pense qu'il faut avant tout qu'il y ait une démarche créative. On n'a pas de sujet tabou sur lequel on a vraiment décidé de ne pas parler. Si c'est intéressant au niveau créatif, on en causera. Si c'est des choses à faire partager, à faire découvrir, on en parlera aussi. Évidemment, il ne faut pas que ça fasse non plus promo pour vendre des trucs derrière.
Ouais.
Ce n'est pas notre rôle, on n'est pas là pour ça. Mais on peut en parler. On peut en débattre, mais par contre, il ne faut pas non plus se voiler la face. Si ça ne nous plaît pas, on ne va pas se priver pour le dire non plus.
Hein. Ouais. Voilà. Mais d'habitude, ce qui ne nous plaît pas, on n'en parle pas, en fait, hein, tout simplement.
Bah, parce que jusqu'à présent, on choisit nos propres sujets. On parle d'abord de ce qui nous tient à cœur, mais ça ratisse large. Quoi. On n'a pas des œillères. Quoi.
En tout cas, pour l'heure, c'est Darby qui nous présentait Freestyle Me, super intéressant, qu'on va retrouver bien, sur les carnivores.
Sur le carnivore, sur le site,
par
sur
écrit, Facebook. Pour avoir tous les liens.
Il faut tweeter.
Voilà, un grand merci Darby et à très bientôt.
Merci de nous avoir écoutés, en tout cas.
Une nouvelle surprise. Ben, merci à vous, donc merci à Damien, le poulpe vert, si vous le cherchez. C'est comme ça que tu es répertorié ou pas?
Non, sur Damien.
C'est Damien. Okay. On oublie le poulpe.
À part quand j'essaye de disparaître à Counter-Strike, qui m'appelle le poulpe vert.
Quand t'es mauvais, quoi.
Reconnaît. Voilà, exactement.
Merci à Luc également, qui nous parlait des musiques de Hotline Miami, un bon petit sujet bien sympathique. Darby, qui a disparu depuis, tout simplement parce qu'il
nous a laissé,
hein, parce qu'il est un petit peu tard, qui nous parlait justement du freestyle me, un style on va dire d'improvisation musicale assez sympa, de freestyle. Sylph aussi, qui est toujours bien présent, un grand merci à toi. Et Johnny, j'espère que ça t'a plu pour ce deuxième numéro du podcast de l'œil carnivore.
Ben, merci pour l'invite, hein. c'est toujours un plaisir
avec
d'être
plaisir.
Autour de la table avec vous.
Et alors, tu penses quoi du studio?
Et avec les nouveaux aussi. Le studio rocks sa maman.
Ouais, mais il fait un peu froid encore, il n'est pas isolé.
J'ai oublié ma veste, quoi.
Il n'est pas isolé.
J'ai oublié mes gants, je suis un peu triste.
Je pense que personne n'a enlevé sa veste ce soir. Ah si, Sylph. Ouais, moi je l'ai enlevé au début, mais je l'ai vite remise. Bon voilà, un grand merci les amis. Comme d'habitude, vous pouvez retrouver ces chroniques de façon séparée sur le blog à travers des articles ou dans une magistrale, si on peut appeler ça comme ça, le podcast principal. On débarque bientôt sur iTunes.
J'espère en tout cas d'ici une semaine, on va essayer de faire ça, hein, à peu près.
Fouetter notre.
Voilà, place. Et on va essayer aussi d'être sur YouTube, peut-être sur Dailymotion, dans toutes les bonnes crèmeries. Hein, de toute façon, on va manger à tous les râteliers.
Voilà,
iTunes,
excellent.
T'es sûr que c'est une bonne crèmerie?
On va pas rentrer dans le débat. Le problème, c'est que podcast dit iTunes. Voilà, c'est un peu
le passage obligé. Quoi.
Ouais. Ah, Mac. Ah
et ouais. Bon, allez, un grand merci, les amis, et à très bientôt. Donc, la semaine prochaine. Ciao, ciao, tout le monde.
Ciao.